que decidí, me la confié.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 12 novembre 2024. Voici le sommaire. Le principal opposant mozambicain appelle ses partisans à 3 nouvelles journées de manifestation à partir de demain pour contester la victoire proclamée du parti au pouvoir. Au Niger, 9 combattants du mouvement rebelle Front Patriotique de Libération rendent les armes. Ce mouvement a été créé en soutien au président déchu Mohamed Bazoum. La victoire de Donald Trump à la présidentielle du 5 novembre suscite des inquiétudes en Ukraine, où des observateurs s'attendent à un changement de la politique des États-Unis dans le conflit opposant Kiev et Moscou.
La seule façon dont Trump pourrait potentiellement arrêter la guerre est s'il fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête les combats et pour qu'elle concède et abandonne les territoires occupés selon les conditions de la Russie.
Reportage à suivre dans la partie magazine en seconde partie de cette édition. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yakuba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane a appelé lundi ses partisans à 3 nouvelles journées de manifestation à partir de demain mercredi et à se défendre après la victoire proclamée du parti au pouvoir. Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15, nous allons paralyser toutes les activités, a annoncé lors d'un direct sur les réseaux sociaux Venancio Mondlane, qui revendique la victoire électorale et dénonce des fraudes au profit du Frelimo, formation au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. La commission électorale a crédité l'opposant de 20% des voix aux élections du 9 octobre, les plus frauduleuses depuis 1999, d'après l'ONG Anticorruption Public Integrity Center. Au moins 35 personnes sont mortes dans des violences post-électorales depuis le 19 octobre et l'assassinat de 2 figures de l'opposition, selon un décompte de Human Rights Watch et de l'ONG mozambicaine Centre pour la démocratie et les droits humains. Au Niger, 9 membres d'un mouvement rebelle armé qui exige la libération du président déchu Mohamed Bazoum ont déposé les armes et se sont rendus hier lundi. C'est ce qu'ont déclaré des responsables dans le nord du pays gouverné par l'armée. Eric Manirakiza.
Cette reddition marque une étape dans les efforts pour stabiliser la région alors que les autorités font face à des menaces multiples allant de groupes rebelles aux attaques djihadistes. Elle fait suite à des négociations discrètes menées par des personnalités locales influentes, selon le média local R-Info. D'autres membres du Front Patriotique de Libération FPL avaient déjà commencé à se rendre dès le début du mois. Le 1er novembre, Idrissa Madaki, porte-parole du groupe, ainsi que 3 autres combattants, s'étaient livrés dans 2 localités proches de la frontière libyenne, selon l'armée nigérienne et la télévision nationale. Mahmoud Salah, chef du FPL, a récemment été déchu provisoirement de sa nationalité, ainsi que 7 autres membres de l'ancien régime Bazoum, accusés notamment d'actes de terrorisme. Salah avait revendiqué plusieurs attaques contre l'armée dans le nord du pays et le sabotage d'un éléoduc stratégique en juin dernier. Le FPL a vu le jour en août 2023, peu après le renversement de Mohamed Bazoum lors d'un coup d'état militaire. Un autre groupe rebelle réclamant également la libération de Bazoum, le Front Patriotique pour la Justice, FPJ, détient depuis juin le préfet militaire de Bilma dans le nord-est et 4 membres de son équipe de sécurité enlevés lors d'une embuscade.
En Tunisie, le patron du groupe CHO, premier exportateur d'huile d'olive qui exploite une immense plantation d'oliviers appartenant à l'État, a été placé en détention pour des soupçons de corruption, selon plusieurs médias. Abdelaziz Makhloufi, qui est également président du club sportif spaxien, l'un des principaux clubs du pays, avait été interpellé le 2 novembre dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du domaine étatique qui s'étend sur 420 000 hectares, dont environ 360 000 plantés en olivier. Selon la radio Mosaïque FM, 15 personnes au total, dont un ancien ministre de l'Agriculture, des cadres du ministère, un ex-directeur de l'Office des terres domaniales, sont poursuivis dans cette affaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a annoncé le retour de Tom Homan à la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration. Il a aussi nommé la députée républicaine Elise Stefanik au poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Les précisions avec Yacouba Ouédraogo.
J'ai le plaisir de vous annoncer que l'ancien directeur de l'ICE et pilier du contrôle des frontières, Tom Homan, rejoindra l'administration Trump où il sera chargé des frontières de notre pays. C'est ce qu'a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, ajoutant que le nouveau directeur de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration sera chargé de toutes les expulsions d'étrangers en situation illégale vers leur pays d'origine. Le président élu s'est engagé à lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Au cours de sa campagne, Trump a aussi promis de réinstaurer une politique de séparation des familles à la frontière. Thomas Homan avait déjà dirigé l'ICE lors du précédent mandat de Donald Trump, pendant lequel près de 4000 enfants migrants avaient été séparés de leurs parents, placés en détention. Autre nomination du président élu, la députée républicaine Elise Stefanik, à qui Donald Trump dit avoir proposé le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Stefanik a confirmé qu'elle acceptait le poste, se disant réellement honorée.
Un nouveau premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, a prêté serment lundi et promis de rétablir la sécurité dans ce pays de la Caraïbe, frappé par la violence des gangs au lendemain du limogeage de son prédécesseur par le Conseil présidentiel de transition. Après seulement 5 mois de pouvoir, le premier ministre Gary Conille a été remplacé contre sa volonté. « Je prends l'engagement de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme au service de la cause nationale », a déclaré M. Fils-Aimé, qui a également évoqué de prochaines élections, alors que le pays est privé de président depuis 2021. Et en rapport avec la crise en Haïti, le secrétaire général de l'ONU appelle les acteurs politiques de ce pays à surmonter leurs divergences et à travailler ensemble dans le cadre de la transition politique du pays. Plus de détails avec Nani Talani.
À la lumière des derniers développements, le secrétaire général de l'ONU appelle tous les acteurs haïtiens à travailler ensemble de façon constructive pour faire avancer la transition politique, a déclaré hier Stéphane Dujarric, le porte-parole d'Antonio Guterres. Surmonter leurs divergences et faire passer le pays en premier est critique à cette fin, a-t-il insisté. Interrogé sur le limogeage de Gary Conille, Stéphane Dujarric a noté que ce n'était pas à l'ONU de choisir qui est Premier ministre d'Haïti, mais ce qui est important est que les dirigeants politiques haïtiens placent les intérêts d'Haïti en premier. Après des semaines de conflits sur la direction de certains ministères, le Conseil présidentiel de transition a décidé de limoger le Premier ministre Gary Conille, nommé en juin, et le remplacer par l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé. Hier, un vol de la compagnie américaine Spirit Airlines, qui tentait d'atterrir à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, a été touché par des coups de feu, l'obligeant à se dérouter vers la République dominicaine. Une hôtesse de l'air a été touchée par une balle, a indiqué un journal de Miami. Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport international Toussaint Louverture ont été déroutés vers la République dominicaine.
L'organe directeur de la Cour pénale internationale va lancer une enquête contre le procureur en chef Karim Khan pour inconduite sexuelle présumée, une accusation déjà démentie par l'ancien avocat britannique de 54 ans. Plus de détails avec Alexandrine Holoyon.
Une enquête externe est en cours afin de garantir un processus totalement indépendant, impartial et équitable, indique le communiqué qui a appelé toutes les parties à coopérer pleinement. Pour sa part, M. Khan a déclaré dans un communiqué qu'il resterait à son poste en vue de superviser les enquêtes sur les crimes de guerre présumés, y compris dans le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, tandis que toutes les questions relatives à l'enquête le concernant seraient traitées par les procureurs adjoints. Le procureur de la CPI avait précédemment nié les allégations de mauvaise conduite qui ont été signalées à l'organe directeur de la Cour le mois dernier. Il avait demandé à l'organe de contrôle interne de se prononcer sur ces allégations, affirmant qu'il s'agit d'une campagne de désinformation visant son bureau. Pour leur part, les juges de la CPI examinent la demande formulée par Khan en mai pour obtenir des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son chef de la défense, et des dirigeants du mouvement palestinien Hamas.
Les forces américaines ont mené hier lundi des frappes contre 9 cibles liées à des groupes soutenus par l'Iran en Syrie en réponse aux attaques contre les troupes de Washington dans le pays, a annoncé le Pentagone. Ces frappes diminueront les capacités des groupes soutenus par l'Iran à planifier et lancer des attaques contre les forces américaines et celles de la coalition, a déclaré le Pentagone, faisant référence à la coalition internationale contre le groupe djihadiste État islamique déployé en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
De légères pluies tombées la semaine dernière et associées à des périodes ensoleillées dans les principales régions cacaoyères de Côte d'Ivoire ont contribué à renforcer la récolte principale d'octobre à mars, qui devrait être abondante, assurent les agriculteurs. Les fèves ont pu sécher correctement et éviter les maladies. Les producteurs signalent la présence de nombreuses grosses gousses sur les arbres pour la prochaine récolte. Le Sénégal devra attendre avant d'obtenir une décision concernant son programme de prêt de 1,9 milliard de dollars avec le FMI, suspendu après la découverte d'erreurs dans les chiffres de la dette et du déficit du pays, d'après un audit en septembre. Le FMI ne pourra considérer soutenir le Sénégal qu'après la certification des résultats de l'audit par la Cour des comptes mi-décembre. Il pourrait exiger le remboursement de prêts accordés sur la base des erreurs de déclaration. Pour terminer, la croissance du Niger à court terme est projetée à 8,8% cette année, soutenue par les exportations de pétrole, la levée des sanctions et une bonne saison agricole, estime le FMI. Les réformes en cours telles que la simplification du système fiscal et l'adoption d'une stratégie pour la gestion des recettes pétrolières sont cruciales pour dégager un espace budgétaire permettant de financer les besoins de développement du pays.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Suite ce mardi des matchs de la deuxième journée de la Ligue des champions féminines de la CAF au Maroc.
Oui, opération relance pour les Aigles de la Médina face aux Sud-Africaines de University of Western Cape FC qui avaient perdu 2-0 devant les Congolaises du tout-puissant Mazembe. Les Sénégalaises avaient aussi été battues 3-0 par le club hôte l'ASFA du Maroc. Pour notre consultant Amdine Sy, l'apprentissage est douloureux pour les Aigles de la Médina du Sénégal.
Mais il faut comprendre que c'est la première participation de ce club sénégalais. Je vous parle des Aigles de la Médina. Ils ont été laminés par les phares. Le score pouvait être encore plus sévère, mais en tout cas, l'apprentissage sera très difficile pour ces Aigles de la Médina. Mais c'est comme ça en football. Il faut essayer d'apprendre des échecs pour pouvoir rebondir. Et je pense que les Aigles le feront.
Notre consultant Amdine Sy, dans l'autre match de cette poule A, gros choc entre l'AS Force Armée Royale du Maroc et le tout-puissant Mazembe de la RDC, tous deux vainqueurs lors de leur première sortie sur place à Casablanca au Maroc. Amine Birouk voit en ce match une lutte pour la première place du groupe A.
Pays organisateur, club organisateur, l'équipe militaire marocaine a battu les Sénégalaises des Aigles de la Médina 3-0. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde si Aziza Bah avait transformé un pénalty, si les joueuses marocaines avaient aussi réussi à convertir quelques-unes des occasions qu'elles se sont créées en cours de rencontre. Il faudrait également saluer la victoire des Congolaise du TP Mazembe, 2-0 face aux deuxièmes représentantes sud-africaines, Cape Town, lors d'un match à sens unique. Donc c'est déjà une tendance qui se dégage avec dans le groupe A, l'ASFAR et le TP Mazembe qui semblent au-dessus du lot.
Notre consultant sportif, Amine Birouk.
Le tirage au sort du Mondial des clubs aura lieu le 5 décembre prochain.
L'annonce a été faite par la FIFA. Ce tirage au sort va déterminer les 8 groupes de 4 équipes qui disputeront la première phase du tournoi à 32 équipes. Les 16 clubs ayant fini aux deux premières places de chaque poule, se qualifieront pour la phase à élimination directe des huitièmes de finale à la finale, sans match pour la troisième place. Tous les qualifiés pour ce tournoi quadriennal, dont la première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025, dans 12 stades américains seront connus d'ici là. Il ne manque pour l'heure que le vainqueur de la Copa Libertadores, dont la finale 100% brésilienne, opposera le 30 novembre l'Atlético Mineiro au Botafogo de Futebol et Regatas. La nouvelle compétition se heurte à de nombreuses critiques, tant le calendrier est déjà surchargé. Le syndicat des joueurs FIFPro et l'association des Ligue mondiale ont annoncé fin juillet leur intention de saisir la Commission européenne contre la FIFA.
Merci Yafkouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Avec le retour de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche, les Ukrainiens se préparent à des changements potentiels dans la politique américaine qui pourraient remodeler leur lutte face à la Russie. Le programme de M. Trump pourrait prendre un tournant radical par rapport au soutien indéfectible que l'administration Biden fournissait au régime ukrainien. Reportage de Miroslava Gonzade, récit Claire Morin-Gibourg.
Lorsque la nouvelle de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle a atteint l'Ukraine, le Trump Coffee Bar, situé dans le centre de Kiev, a offert des boissons gratuites à ses clients. Roman Kravtsov, le directeur artistique de cette entreprise, créée il y a 5 ans, est heureux du choix des Américains pour la présidence.
Nous pensons que l'un des plus grands moments de l'histoire commence maintenant. Nous pensons que c'est formidable.
Mais tous les Ukrainiens ne partagent pas son enthousiasme. Certains s'attendent à des changements dans la politique américaine. Le chercheur au Centre d'analyse des politiques européennes, Mark Voyager, témoigne de l'inquiétude générale.
Trump pourrait en fait décider de faire pression sur l'Ukraine en retenant le soutien militaire, financier, diplomatique, politique et autres dont elle a tant besoin afin de pouvoir montrer à ses partisans comme une sorte de paix.
Selon Mark Voyager, la Russie profiterait de l'occasion pour faire une pause, se regrouper et attaquer de nouveau. Selon lui, la promesse de Trump de mettre fin à la guerre suggère qu'il pourrait pousser l'Ukraine et la Russie à la table des négociations.
La seule façon dont Trump pourrait potentiellement arrêter la guerre est, malheureusement, s'il fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête les combats, accepte le cessez-le-feu et pour qu'elle concède et abandonne les territoires occupés selon les conditions de la Russie.
L'ancien ministre ukrainien des infrastructures devenu soldat, Volodymyr Omelian, estime que les intentions de Trump sont sincères mais irréalistes.
Je pense que Trump est honnête lorsqu'il affirme qu'il mettra fin à toutes les guerres. Je voudrais seulement lui souhaiter bonne chance, car s'il y parvient, il sera le premier homme depuis des siècles à accomplir cette tâche.
Pour l'Ukraine, tout accord de paix doit respecter sa souveraineté, sans troupes russes sur son sol. Certains Ukrainiens estiment qu'un effort de paix pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les États-Unis et l'Ukraine. Anna Opko est l'ancienne présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien.
Il est important de lever les restrictions sur les frappes en profondeur et de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée, surtout après l'arrivée des troupes nord-coréennes qui soutiennent déjà l'agression russe contre nous. Et bien sûr, nous croyons en une approche plus pragmatique, notamment la coopération économique.
Les Ukrainiens sont partagés entre l'espoir d'une paix et le risque qu'un accord précipité mette en péril leur souveraineté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Malawi a reçu sa première livraison de plus de 19 000 tonnes de maïs en provenance d'Ukraine. Cette aide, fournie notamment par le Programme alimentaire mondial, permettra de nourrir des millions de Malawites actuellement confrontés à des pénuries alimentaires aggravées par la sécheresse provoquée par l'ouragan El Niño. Reportage de Lamek Massina, récit Jean-Roger Billon.
L'aide au Malawi s'inscrit dans le cadre de l'initiative céréales d'Ukraine, lancée en novembre 2022 par le président Volodymyr Zelensky. L'objectif de cette initiative est de fournir des céréales ukrainiennes et d'autres denrées alimentaires aux pays confrontés à des crises alimentaires. L'ambassadeur d'Ukraine au Kenya, André Pravednik, s'est rendu au Malawi pour assister à l'arrivée de la nourriture. Il a déclaré que cette aide était une compensation pour le soutien apporté par le Malawi à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie.
Le Malawi est un des rares pays africains à avoir soutenu et à continuer de soutenir l'Ukraine dans la défense de notre souveraineté et de notre intégrité, et notamment en votant en faveur d'une résolution de l'ONU exigeant que la Russie retire ses troupes du territoire ukrainien.
Le Malawi est confronté à l'une des pires situations humanitaires depuis des décennies, après qu'une période de sécheresse prolongée imputé à El Niño a gravement réduit la production agricole du pays, laissant 5,7 millions de personnes sans nourriture. Le Programme alimentaire mondial coordonne la livraison et la distribution de l'aide alimentaire de secours dans les zones les plus durement touchées du Malawi. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, avait déjà obtenu des vivres de Tanzanie, du Kenya et d'Afrique du Sud, mais elle a maintenant étendu ses recherches à d'autres pays en raison de la disponibilité limitée de maïs dans ces pays. Paul Turnbull est le directeur du PAM au Malawi.
Pour répondre à nos besoins, nous avons dû importer de plus loin. Nous avons donc bénéficié de l'aide de l'initiative Grain for Ukraine, financée dans notre cas par la Suède, les Pays-Bas, la France et la Corée du Sud. Nous avons donc reçu un bon soutien de la part des donateurs et nous sommes également partenaires de l'Ukraine dans le cadre de cette initiative.
Les donateurs se sont engagés à s'engager davantage pour aider les pays les plus touchés par les catastrophes liées au changement climatique. Luc Deschamps est le consul honoraire de France au Malawi.
La France accueillera également l'année prochaine la conférence sur la nutrition pour la croissance. Pour nous, la réponse à ces problèmes est donc de nous rassembler et d'essayer de soutenir les pays les plus touchés par le changement climatique.
Les autorités du Malawi saluent l'aide ukrainienne. Charles Kalemba est le directeur du département de gestion des catastrophes au Malawi.
Au Malawi, nous apprécions vraiment la réponse que nous avons reçue jusqu'à présent, qui nous permet de dire que jusqu'en décembre, tout va bien et que nous sommes toujours mobilisés pour nous assurer d'arriver jusqu'en mars.
Le PAM affirme toutefois avoir besoin de toute urgence de 63 millions de dollars pour répondre pleinement aux besoins des communautés en situation de sécurité alimentaire au Malawi. Sans ce soutien, des millions de personnes pourraient être confrontées à une fin encore plus grande.
Au Sénégal, le coup d'envoi de la 15e Biennale d'art africain a été donné jeudi dernier. Pendant un mois, près de 400 000 visiteurs sont attendus à Dakar. La Biennale se veut une vitrine de l'excellence de la création artistique contemporaine. Instituée par l'État du Sénégal il y a plus de 30 ans, elle vise aussi à accompagner la professionnalisation du secteur en plein essor. Reportage d'Alison Fernandez et Moustapha Dienne.
Dakar, capitale de l'art africain pendant un mois. Artistes, collectionneurs ou encore critiques d'art ont rendez-vous dans la capitale sénégalaise pour prendre part à la 15e Biennale. Initialement prévue en mai dernier, mais reportée pour raisons budgétaires, elle s'est ouverte en grande pompe en présence du président sénégalais.
La Biennale de Dakar, dont nous célébrons la 15e édition, s'est imposée au fil des années comme une activité de référence en matière d'art contemporain en Afrique et dans le monde. Un événement majeur de promotion de la culture en général, du marché de l'art en particulier.
Pour les nouvelles autorités, cet événement représente une opportunité de développer le secteur des industries créatives et de lui permettre de jouer son rôle dans le développement socio-économique du pays. Dans la vision 2050 présentée le mois dernier, il est prévu la création de plus de 500 000 emplois dans ce secteur d'ici 25 ans. Au Musée des civilisations noires, Baba Diédiou est l'un des 58 artistes sélectionnés dans le cadre de l'exposition internationale de cette biennale.
L'année passée, j'étais dans le off. Cette année, je suis dans le biennale au pavillon Sénégal. Pour moi, c'est une très grande sens et ouverture pour nous en tant qu'artistes d'être vus par les autres pays, par les autres nations.
Toujours au pavillon Sénégal, le collectif RBS, qui représente une trentaine d'artistes graffeurs, expose cette année une œuvre sur le thème de la biennale, The Wake, l'éveil. Ce collectif, créé en 2012, a monté un institut de formation à Dakar, l'une des premières écoles de graffiti du continent. Pour Maguette Traoré, membre du collectif, le secteur est en plein essor.
On a commencé à gagner des marchés. On a commencé à avoir des instituts de formation, 6 mois de formation. Et après les 6 mois, on te crée une petite entreprise. Une petite entreprise de 25 000 francs. Et après là, tu commences à gérer tes propres sponsors, à faire des propres festivals, à écrire tes propres budgets.
Plus qu'un lieu d'exposition, la Biennale est souvent un tremplin pour les artistes, notamment le OFF. Cette année, près de 500 événements culturels se tiendront dans ce cadre. Dans cette galerie du quartier du Virage, c'est l'heure des derniers préparatifs. L'exposition « Dialogue sculpté, couleurs éternelles » présente les œuvres de la sculptrice Seyni Camara et de la jeune artiste plasticienne Gabrielle Sissoko, dont les œuvres seront présentées dans 4 endroits différents de la capitale ce mois-ci.
C'est une émulation. Je crois que ça nous stimule tous à donner le meilleur de nous-mêmes. En ce qui me concerne, moi, c'est d'oser vraiment prendre ma place d'artiste parce que je peins que depuis 4 ans. Donc je suis clairement en train de me professionnaliser et au contact de ce vivier de compétences et d'échanges, je confirme que c'est vraiment le métier que je veux faire maintenant.
La Biennale se tient cette année dans un contexte de crise climatique. Plusieurs expositions, dont celle-ci, invitent le public à réfléchir à son lien à la nature. Elle se présente comme une réponse artistique et poétique aux défis écologiques mondiaux. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
À Lomé, la capitale du Togo, les rues se sont transformées le week-end dernier en véritables scènes à ciel ouvert où des artistes de tout horizon sont venus exposer leurs talents. Ces spectacles de rue, gratuits et accessibles à tous, sont organisés pour le compte de la 2e édition de la Biennale des Arts en Espace Public, baptisée « Rendez-vous chez nous au Togo ». Reportage de notre correspondante à Lomé, Amène à Signon.
Ces spectacles culturels inhabituels en plein air ne laissent pas indifférents les passants. Des prestations artistiques qui reflètent la richesse et la diversité culturelle du Togo et de toute l'Afrique. Pour sa 2e édition, le festival Rendez-vous chez nous au Togo a réuni des gens artistiques diversifiés, des danseurs traditionnels, des marionnettes géantes, des échassiers et même du cirque, qui combinent des techniques acrobatiques, de jonglerie et de mime pour donner une portée spectaculaire aux performances de danse. Écoutons Ulrich De Savi, directeur artistique de la troupe Cotonou Cirque Company.
On a tendance à attribuer le cirque aux Européens, alors que le cirque existait depuis fort longtemps. Surtout la jonglerie, l'art de la jonglerie, ça a commencé en Égypte. Ça a d'abord commencé en Égypte. Là, aujourd'hui, on a eu à présenter juste un extrait de notre dernière création qui s'intitule « Et nous qui est trop dominant ». C'est un sujet sur l'environnement.
Captivant et attractif, le cirque de rue commence à gagner en popularité et attire bien souvent de jeunes spectateurs. Il offre un spectacle visuel dynamique et apporte une dimension moderne et originale à l'art de rue. Le festival mise sur sa vulgarisation en Afrique. Ces spectacles de rue gratuits et accessibles à tous enrichissent la vie culturelle de Lomé et permettent aux artistes locaux de disposer d'un espace pour s'exprimer et se faire connaître. Anifa Dobila est comédienne et metteur en scène.
C'est vraiment une initiative qui permet d'offrir aux populations des offres culturelles, de l'art et de leur montrer comment c'est. Et donc que ça se perpétue et que ça grandisse encore parce que on en a besoin. On a besoin de ça. Nous.
Au-delà du divertissement, les spectacles de rue ont aussi un impact social profond. Ces performances favorisent les échanges culturels et démontrent l'importance de la culture et de l'expression artistique. Gilbert Agbevide, promoteur du festival Rendez-vous chez nous au Togo.
Ce rendez-vous culturel a pour identité les arts de nos communautés. Et la création locale, la création des talents de chez nous pour l'Afrique et pour le monde entier. Cette année, nous avons aussi travaillé pour toucher les zones les plus reculées. On a fait Palimé, Atakwame, Dacha, les quelques régions du Togo qui n'ont pas la chance d'accueillir de temps en temps des spectacles de cette envergure.
Pour cette édition, le festival a accueilli une dizaine de spectacles provenant de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamed Oumpa ainsi va à Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.